une histoire particulière. Dans le premier épisode raconté hier par Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck, il était question d'un film. Nous étions au début de l'année 1936 et le Parti communiste français souhaitait réaliser rapidement un film de portée nationale dans l'idée de remporter les élections législatives. L'homme choisi sera Jean Renoir, pourtant non encarté au Parti communiste. Jean Renoir s'entoure d'une équipe fidèle au Front populaire et réalise en un temps record le film de propagande « La vie est à nous ». La première projection se déroule le 7 avril 1936. Pour assurer au film un grand retentissement populaire et participer à la victoire aux élections, le Parti communiste va donner naissance à une coopérative baptisée Ciné-Liberté.
Depuis trois semaines, passe au studio Gilles Coeur, La vie est à nous, un film jusque-là totalement inconnu, ou presque, de Jean Renoir.
La vie est à nous, ou Jean Renoir, au temps du Front populaire.
Ce film, qui date de 1936, est un film collectif, dirigé par Jean Renoir, qui avait été conçu comme une sorte de commande de la part du Parti communiste, qui avait demandé à Jean Renoir un film de, entre guillemets, propagande. Ce film, qui n'avait eu qu'une diffusion extrêmement limitée, est un film totalement maudit, dont les histoires du cinéma ne nous entretenaient que de façon extrêmement allusive, et nous avons aujourd'hui, pour la première fois, l'occasion de revoir ce film.
Commandez l'humanité, contre la guerre il s'agit.
Il me semblait que tout honnête homme se devait de combattre le nazisme. Je suis un faiseur de films. Ma seule possibilité de prendre part à ce combat était un film, écrit Jean Renoir à la fin de sa vie, afin de justifier sa participation à l'œuvre de propagande commandée par le Parti communiste en 1936. Il n'en dira rien de plus, et pour cause. Après l'euphorie liée à la victoire du Front populaire, Renoir va naviguer à vue, au gré de ses amitiés, diront certains, ou de ses intérêts, affirmeront d'autres. Les camarades d'autrefois, dont Louis Aragon, qui n'hésitera pas à souligner sa lâcheté, auront la dent dure contre l'ancien compagnon de route du Front populaire. La guerre, la défaite, la désillusion seront certes passées par là. Ce temps trouble, incertain, va mettre en exergue la complexité de la personnalité de Jean Renoir. Et, ce faisant, nous aider à mieux comprendre les raisons profondes de son engagement dans le film du Parti communiste « La vie est à nous ». Deuxième épisode, « Après la victoire », un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck.
J'aimerais demander à Jacques Rivette en quoi ce film peut nous préoccuper particulièrement aujourd'hui.
Art et esthétique, émission de Michel Zerafa et Raymond Bellour, 1969.
Au départ, c'est un film qui a été demandé par le PC, pas seulement dans un but de propagande, mais dans un cadre très précis, qui était celui de la campagne électorale qui précédait les élections qui ont eu lieu en 1936 et qui ont amené le gouvernement Front populaire. Donc, je ne dis pas que ce film, à lui seul, c'est lui qui a amené le Front populaire, mais enfin, il a été fait dans un but précis de campagne électorale. Et je crois que, justement, la façon dont il avait été diffusé, c'était dans le cadre de ces réunions de campagne électorale, et on montrait le film au début de séance.
La vie est à nous et a eu plusieurs vies. C'est-à-dire que, pour un film de propagande, ça tombe bien, mais ce n'est pas toujours le cas, il est prêt à temps.
Tanguy Perron, historien du mouvement ouvrier et du cinéma.
Beaucoup de films militants dans l'histoire du cinéma militant sont prêts un peu après l'événement, un peu après la grève, et sont où les élections sont forcément caduques. Là, il est prêt à temps, il est bien reçu après un moment de flottement, puisqu'on se rend compte qu'il y a une projection collective au comité central du Parti communiste et ses dirigeants, et on se rend compte assez vite qu'il y a une petite erreur de commis qui est révélatrice, c'est-à-dire que le syndicalisme a disparu dans la scène de l'atelier, c'est-à-dire que la cellule communiste se substitue totalement au syndicat qui n'apparaît même pas. Donc, c'est un peu gênant pour notre côté unitaire. Et puis il a fallu une parole de Vaillant Couturier peut-être, ou de Duclos, pour dire qu'en fin de compte ça reste un bon film. Et là, le parti s'est emparé du film en avril 36, et il a vraiment été diffusé. Il a été diffusé dans les meetings, et il a été repéré par la critique de gauche, mais aussi par la critique de droite, en disant c'est un film communiste, mais c'est un bon film. Donc il aura son efficacité politique aussi, puisqu'il est diffusé à temps, et un an plus tard, il est encore diffusé. Alors il n'a jamais eu de visa de censure. Il va avoir sa vie dans les circuits parallèles, et les circuits parallèles sont assez nombreux en 36-37. Donc il sera diffusé dans les meetings, dans les bourses du travail, dans les maisons du peuple, dans le Trégor en 37. Il y a une tournée avec des caravanes cinéma, automobiles pour la guerre d'Espagne, mais il glisse la vie est à nous. Le PC est très éclectique quand il montre des films. Et il y a en quelques jours 6 000 spectateurs. Donc c'est un film qui est vu et qui est remarqué.
Alors, il a foutu à la porte. Une vache, hein. Tu sais que chez nous, on s'entraîne.
La première diffusion a lieu le 7 avril 1936 à la Bellevilloise, qui est une coopérative sociale et culturelle dans le nord-est parisien.
Maxime Grimbert, directeur de la cinémathèque Ciné Archive.
Mais il est présenté 10 jours avant les élections. Et pour cette raison, le Parti communiste ne va pas demander un visa d'exploitation permettant au film d'être montré en salle de cinéma de façon plus traditionnelle. Parce qu'en fait, le Parti communiste a peur que le visa soit refusé et que le film soit censuré. Donc pour cette raison, le visa n'est pas demandé et le Parti communiste va s'appuyer sur une coopérative qui s'appelle Ciné Liberté pour diffuser le film et va investir notamment dans des projecteurs 16 mm, dans des voitures, pour que le film puisse être vu le plus possible dans les réseaux communistes, à Paris, en banlieue parisienne, mais aussi partout en France. Et tout cela va être rendu possible par le biais de cette coopérative cinématographique. Et cette coopérative, en fait, va rassembler énormément de personnes du cinéma français de l'époque et va avoir, après l'élection et après la victoire du Front Populaire, jusqu'à 12 000 adhérents.
Toi, tu veux démolir les machines?
Oui, je veux tout démolir, je m'en fous de ce qui arrivera.
Mais laisse ça, c'est toi qui es fou. Les machines, ils en commanderont d'autres et toi, tu iras en tôle. Et puis sérieusement, c'est pas les machines. Regarde en Russie, ils sont arrivés à diminuer la journée de travail et à augmenter les salaires grâce aux machines. Mais ici, les gros, ils préféreraient nous laisser crever de faim plutôt que de baisser leurs bénéfices.
En fait, la genèse de Ciné Liberté remonte au début des années 30, si ce n'est au début des années 20. Il faudrait peut-être citer l'AER, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, créée en 1932, dirigée par Louis Aragon et Vaillant Couturier. L'AER reprenait même des anciennes thématiques, si l'on peut dire, des ambitions des Amis de Spartacus, association de cinéphiles du Parti communiste de 28, qui a été dissoute par le préfet de police Chiappe, préfet de police de Paris. Et donc, les Amis de Spartacus dissous ont laissé des traces dans le paysage cinéphilique et politique. Et donc l'AER, qui regroupe des gens talentueux, va être une préfiguration de Ciné Liberté. Et puis, le changement politique opérant à partir de 34, 35, 36, avec cette ouverture aux classes moyennes, cette volonté unitaire, va aboutir à la création de Ciné Liberté. Mais vous voyez ces petits cailloux qui existent avant. Alors Ciné Liberté va reprendre le combat contre la censure de Spartacus, va reprendre cette volonté cinéphilique de Spartacus aussi, mais va vouloir produire des films et réaliser des films. Et là, l'association, à un moment présidée, puis dirigée par Jean Renoir. Mais elle regroupe tout le gratin du jeune cinéma qui se fait, de la photographie. Et en même temps, c'est là que le Parti communiste a une avance sur le Parti socialiste. Il a réussi à rassembler les gens d'image dès le début des années 30. Et en fait, il a un temps d'avance. Et Ciné Liberté est né de cette volonté à la fois de combattre le fascisme, combattre la crise, d'assainir le cinéma français. Et en fait, La vie est à nous naît de Ciné Liberté. Donc, comme beaucoup de projets de films. C'est une association dirigée, c'est un groupe journal, si on peut dire, et une maison de production à la fois. Et c'est une association animée par le Parti communiste, mais qui ne regroupe pas que des communistes.
Renaud va présider Ciné Liberté.
Alors, il écrit dans Ciné Liberté, il écrit des articles pour Ce Soir, qui est le journal du Parti communiste, créé par Aragon pour soutenir la guerre d'Espagne. Il écrit dans Le Travailleur du film, journal du syndicat général des travailleurs de l'industrie du film, qui a un rôle très important parce que le syndicalisme se structure dans les métiers du cinéma à cette époque-là. Dans Ciné Liberté, Jean Renoir s'attaque, comme beaucoup, au pouvoir de la censure, qu'il dénonce. Il s'attaque aussi aux mœurs margoulinesques du cinéma. Il veut assainir le cinéma français et déclaramment le salut du cinéma réside dans la CGT. Il est toujours très lyrique. Il défend aussi, donc, alors là on ne sait pas s'il est sincère ou pas, mais il va soutenir les 40 heures dans l'industrie du cinéma. Donc oui, il est sur tous les fronts en fait, sur tous les fronts syndicaux, politiques, du Front Populaire.
Mais par contre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie rencontre avec Maurice Thorez ou pas du tout ?
Oui, bien sûr, il y a une rencontre avec Maurice Thorez.
Pascal Mérigeau, biographe de Jean Renoir.
Mais non, c'est une rencontre qui est... Renoir est un cinéaste en panne de succès, en panne de reconnaissance. N'oublions pas qu'il y a un personnage très important dans la vie de Renoir qui est son frère aîné, Pierre, qui est un très grand acteur. Et que Renoir a le fantasme de l'acteur. Il en a envie, il va l'être d'ailleurs, il va se distribuer dans ses propres films. Et il en parle dans La règle du jeu, qui est un autoportrait, La règle du jeu, où il dit, moi aussi, le personnage d'Octave joué par Renoir, dit, moi aussi j'aurais aimé connaître ça, les bravos, les hurrahs, la foule, etc. Et ça, il le trouve avec Thorez, qui est un personnage immensément populaire. C'est quelqu'un qui soulève les foules dans les meetings. C'est une vedette, Thorez. Et donc, plus que les idées de Thorez, c'est la personne de Thorez et surtout son succès qui fascine Renoir.
Qu'est-ce que tu as ?
Oh, rien. Simplement, c'est pas très agréable de s'apercevoir une fois de plus qu'on est raté, un inutile, un parasite.
Oh, parasite, toi.
Le contact avec le public, tu vois, c'est ce truc-là que j'aurais voulu connaître. Ça doit être bouleversant, hein. Quand je pense que je suis passé à côté, bah, ça me fait quelque chose.
Il se trouve qu'il est sentimentalement lié à celle qui est sa monteuse, qui est une technicienne hors pair, Marguerite Houlet, qui est une militante communiste fervente. Donc, tout ça se mélange. Mais comme me disait Alain Renoir, le fils unique, l'enfant unique de Jean, il me disait, je ne sais pas si mon père est venu au Parti communiste par amour pour Marguerite ou s'il est venu à Marguerite parce qu'il était au Parti communiste. Et Alain me disait, et ça a été une clé pour le personnage de Renoir, il me dit, je ne comprenais pas comment mon père pouvait déjeuner avec Maurice Thorez et dîner avec ses amis Croix de Feu. Et là, je suis tombé de ma chaise. Je lui dis, comment ça, il avait des amis Croix de Feu ? Et il me dit, mais bien sûr. Lui, la personnalité de Thorez, enfin d'abord la personnalité de sa compagne, Marguerite, la personnalité de Thorez, etc., font qu'il est plus à gauche. Il est très nettement à gauche à ce moment-là. Ses idées, il va aussi vers une certaine générosité. Il y a une grande, vraie générosité en Renoir, c'est absolument certain. Son cinéma le montre. Il faut être très généreux pour faire ce cinéma-là. Donc c'est vrai qu'il a en partage des valeurs de gauche. Mais c'est aussi foncièrement un homme de droite.
Ça illustre les conversions très rapides de Jean Renoir. En 1933, Jean Renoir fait partie d'un syndicat corporatiste et, si on peut dire, xénophobe, hein, qui lutte principalement contre l'arrivée des réfugiés allemands. C'est une immigration juive et intellectuelle qui veut occuper légitimement des places dans les métiers du cinéma, dont on a peur parce qu'on connaît leur efficacité. Comme ça, il y a Billy Wilder, il y a Trivas, il y a énormément de monde qui arrive à Paris. Et moins les ouvriers, mais plus certains metteurs en scène ont peur et créer un syndicat xénophobe, et Jean Renoir y adhère. Il va le quitter assez tôt, il quitte en 1934 quand ce syndicat va organiser une manifestation aux Champs-Élysées sous le cri de le cinéma français aux Français. Il dit là ça va trop loin, et dès 1934, peut-être pour se rattraper, il réalise L'été, donc du côté de Martigues, il réalise donc Tony, ce film à la gloire de la solidarité prolétarienne et des immigrés ouvriers, un film tragique hein, qui se termine mal, qui sort quasiment un an jour pour jour après les émeutes de février 34 qui sortent donc en janvier-février 35.
Hey, t'es dehors là-bas. Les papiers, s'il vous plaît. C'est la première fois que vous travaillez en France.
Non, je suis déjà venu.
Allez.
Il y a du bonheur ici, hein.
Ah oui, mais ça sent le pétrole.
Ah, ça sent tout ça que le pétrole. Ça sent le boulot aussi.
Alors, on est-ce pas qu'on sera heureux ici?
Mais oui, ma petite, on sera heureux.
Donc là, il se fait remarquer. Et puis juste après, il enchaîne donc Le crime de Monsieur Lange, tourné en 1935, il sort en janvier 36. Donc on voit toute la conversion, déjà, par ces films-là, la conversion de Jean Renoir, qui s'intéresse au monde populaire, à la classe ouvrière, peut-être libertaire avec Le crime de Monsieur Lange. Là, on voit la patte de Jacques Prévert. Et à la gauche, enfin communiste avec La vie est à nous, film de propagande. Par ailleurs, un bon film et un bon film de cinéma. La Marseillaise, qui est un grand film de fiction, est aussi un film de propagande à la gloire territoire de la Révolution française et valorisant l'expérience du Front populaire. La Marseillaise qui sort en 1938, il est pensé pendant l'euphorie du Front populaire, après la victoire du Front populaire que la vie est à nous a préparée, donc il est pensé en 1936. Et donc, il rassemblait toutes les sensibilités du Front populaire, et pas seulement les communistes, hein, les socialistes, les communistes, les radicaux, Janson, tout le monde devait participer à cette œuvre-là. Alors, il y a le côté l'euphorie, plutôt le côté un peu mégalomane aussi de Jean Renoir, qui voulait faire un film qui devait durer 12 heures, il devait y avoir Jean Gabin, c'était vraiment toute la fine fleur du cinéma français devait participer à ces films-là. Et ce film devait aussi sauver l'économie du cinéma français. C'est une proposition en acte de nationalisation du cinéma français qui était en crise grave à cette époque-là. Et la Marseillaise n'embauche que des techniciens et des ouvriers des films CGT. Et la CGT va appeler des milliers de figurants à participer bénévolement à la réalisation de ce film-là. Donc il reflète vraiment quelque chose d'un élan. Alors son financement aussi très original. Au début, on vend des bons sous forme d'assignats. Donc c'est la prévente de billets, si l'on peut dire. En fait, le mouvement ouvrier commence déjà, le Front populaire commence déjà à se diviser à cause de la pause, à cause de la guerre d'Espagne, à cause de la fusillade de Clichy. Enfin, très rapidement, l'euphorie du Front populaire s'éclipse. Et les ouvriers sont sollicités énormément aussi pour quêter pour l'Espagne en guerre. Et du coup, l'argent ne remonte pas assez. Et le film est très ambitieux, donc coûte très très cher, beaucoup plus cher qu'initialement prévu. Et la CGT va directement avancer de l'argent, et l'International Communiste aussi, visiblement. Mais ça ne suffit pas non plus. Et donc, on va revenir à une maison de production privée. En tout cas, le capital privé vient sauver le film et qui sort en 38, où là, le Front populaire est complètement déclinant déjà. Donc, les passions ne sont plus là. Les passions ne sont plus là. Et puis, le discours est assez fin de Jean Renoir aussi, même très fin. C'est un film révolutionnaire à la gloire de la Révolution française, mais sans ses héros. C'est un film très moderne dans son écriture filmique. On voit pas Robespierre, on voit le peuple. Et on entend l'accent du peuple, comme dans Tony ou comme dans La vie à nous, on entend. Donc, c'est un film qui désoriente un peu, qui désoriente politiquement, artistiquement.
Eh, pourquoi faire la carte? Tu ne nous connais pas peut-être?
Je ne pourrais pas te laisser entrer, collègue.
Moi, je comprends pas ces bureaucraties. Est-ce qu'on a besoin d'une carte pour faire la révolution? Et les riches doivent payer l'impôt!
Donc La Marseillaise, c'était un film qui était censé faire l'unanimité des Français sur une vision d'espoir de la Révolution française, qu'elle a fait naître une autre idée de l'avenir. C'est l'idée du Front populaire.
Bernard Eisenschitz, historien et critique de cinéma.
En même temps, ce qui passe dans La Marseillaise, c'est une idée très très renoirienne, avec le personnage essentiel de l'aristocrate qui est envoyé en exil par un révolutionnaire marseillais. Cet aristocrate s'aperçoit qu'à un moment, cet homme qu'il a chassé de son pays, cet Arnaud, avait peut-être raison, et que c'est peut-être eux qui représentent le passé, et que c'est la révolution. Voilà, donc on a l'idée de l'aristocratie qui tend la main au peuple, par-dessus la bourgeoisie, grande idée renoirienne, qui est une grande idée, évidemment, l'idée de la grande illusion aussi. On n'est plus simplement dans l'idée de la révolution, ou dans l'idée de la guerre civile, ou dans l'idée de la terreur.
Tenez, voulez-vous que je vous dise ce que c'est que leur nation ? C'est la réunion de la canaille contre les gens de qualité.
Je connais une autre définition de ce mot « nation ». Elle m'a été donnée à Marseille, par l'homme qui m'a chassé du Fort Saint-Nicolas, dont j'étais le commandant. Il avait l'air d'un honnête homme, et pourtant c'était un patriote. S'il y a beaucoup de révolutionnaires à son image, nous aurons du fil à retordre.
La Marseillaise aussi correspond à une chose extrêmement importante. Elle correspond au moment dans lequel nous l'avons tournée.
Jean Renoir, 1961.
Ce moment était un moment d'enthousiasme. C'était le moment du Front populaire. Sorte de feu d'artifice avant la catastrophe. Pendant ce grand moment, nous avons pu croire, en France, que les querelles étaient terminées. Nous avons pu croire que nous arriverions à une espèce d'union. Une union de tous les Français appartenant aux classes les plus différentes, aux métiers les plus différents, les gens avec les préoccupations les plus différentes. Nous avons pu croire que nous arriverions à la fin de cette espèce de querelle éternelle qui oppose les Français depuis si longtemps.
amour sacré de la patrie.
Le film est un échec public. Esthétiquement, je ne dirais pas que c'est un échec. Il y a un côté Pagnol, comme disait Truffaut. Ça commence comme un film de Pagnol et ça finit comme un film de Ford. Et il y a des séquences sublimes. La séquence de la Marseillaise tournée dans le sud de la France avec un seul plan séquence et du point de vue cinématographique, sublime, vraiment sublime. Après, c'est inégal. Mais c'est vraiment, ça reprend le discours du Parti communiste qui était dur à intégrer au sein de certaines masses ouvrières, en tout cas les plus politisées, c'est de faire intégrer la Marseillaise dans le patrimoine ouvrier. Alors que jusque-là, la Marseillaise était un chant chauvin et nationaliste. Donc il honore très bien la commande, mais c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui va faire s'éloigner Jean Renoir du Parti communiste. C'est peut-être l'échec du film.
Et la Marseillaise, c'est un film qui épouse aussi bien le parti des révolutionnaires que celle du roi. Le roi lui est extrêmement sympathique, en plus son frère Pierre Renoir, le personnage du roi est très sympathique. Donc il aime autant le roi que celui qui lui coupe la tête. C'est ce qui fait aussi la richesse de son film, enfin de son cinéma en général. Vous voyez La Grande Illusion, par exemple, où il est évident que je ne sais pas pourquoi, parce que Renoir était donné de gauche, etc., on pense instinctivement que le représentant de Renoir dans La Grande Illusion, s'il y en a un, c'est le personnage de Jean Gabin, alors qu'absolument pas, c'est le personnage de Pierre Freinet. C'est l'aristocrate. Renoir se sent proche de l'aristocrate. Mais c'est aussi ce qui rend difficile toute réduction de la personnalité de Renoir à des idées, à des convictions, etc.
On est à une époque où tout le monde ment. Les prospectus des pharmaciens, les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, les simples particuliers, on monte pas aussi?
Est-ce que vous me croyez menteur, moi?
Renoir est un homme très très perméable à l'ère du temps, à tout ce qui se passe autour de lui. Alors on peut dire influençable aussi, c'est quelqu'un qui déteste l'affrontement direct. Donc Renoir partage la désillusion générale du Front Populaire. Donc il continue avec des films qui, à mon avis, sont tout aussi radicaux, si on pense à la Bête humaine, et certainement à un film comme La règle du jeu, qui est un des films les plus radicaux possibles sur la lutte des classes. Après ça, arrive l'occupation, arrive, disons, la défaite, et Renoir quitte le pays pour s'installer aux États-Unis.
Vous me faites rire. Et puis si vous voulez savoir, vous me faites l'impression d'être le dernier des lâches.
Là, c'est une période d'errance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va expliquer plus tard qu'il est parti pour l'Italie après l'échec de La règle du jeu, ce qui est faux. Il considère en avoir terminé avec la France. Depuis le succès de La Grande Illusion, il considère n'avoir plus rien à prouver en France. Et ça, c'est quelque chose qui va rester jusqu'à la fin de sa vie. Ne jamais oublier que Renoir est mort américain, quand même. Et donc, en 1939, après la Grande Illusion, il considère n'avoir plus rien à prouver. Donc, il pense à Hollywood, il est déjà en contact. On lui fait une proposition via l'Italie, parce que le gouvernement de Mussolini, à travers le fils Mussolini, qui est producteur de cinéma, propriétaire de presse, etc., veut faire venir des cinéastes français, parce que les cinéastes français sont très prestigieux. Et Renoir accepte pour tourner une Tosca. Il a beaucoup d'argent et il est très content. Il le fait pour l'argent, pour le plaisir de vivre en Italie, avec une femme qu'il aime depuis peu. Tout va bien. J'ai retrouvé une lettre qui est assez amusante, enfin, si on peut dire. C'est une lettre datée du 10 mai 1940, qui n'est pas une date anodine, puisque c'est le jour, si je ne me trompe pas, de l'attaque allemande sur les Pays-Bas et la Belgique et la France. Une lettre à un de ses amis en France. « Nous venons d'apprendre l'invasion de la Belgique et de la Hollande par les Allemands. Personnellement, je présente cela aux Italiens comme une grande victoire française. Ce soir, Benito Mussolini lui-même va se faire projeter La Grande Illusion. J'en suis très fier. » Jusqu'au dernier moment, je ferai tout mon possible pour conserver des liens amicaux avec un pays que je continue à considérer comme très sympathique. C'est-à-dire qu'il est en Italie, il est à Rome, payé, invité, célébré par le régime fasciste. Très bien. Mais il passe aussi pour un antifasciste. Donc tous les cinéastes italiens, ou les futurs cinéastes italiens, les Comencini et autres, le voient tous les soirs, et pour eux, c'est une idole absolue. Parce qu'il est antifasciste. Eux-mêmes sont antifascistes, se dressent contre ce régime, plus ou moins ouvertement. Mais Renoir gagne encore une fois ses Torres et les Croix de Feu. Il déjeune avec les fascistes, il dîne avec les antifascistes. Et dans les deux cas, il est célébré.
l'épisode italien, ce que Renoir disait à Brecht, c'est « j'ai beaucoup aimé l'Italie parce qu'il y a de merveilleux antifascistes ». Donc Renoir y va avec un certain aveuglement, évidemment. Bon, il prépare le film, il commence à tourner le film. Donc Renoir retrouve Luchino Visconti, qu'il a eu comme assistant stagiaire sur la partie de campagne. Il ne fait pas un film officiel du fascisme, il fait un film tiré du thème de la Toscane. Donc il commence ce film, qu'il interrompt très rapidement et qui est repris par Karl Korch. Il y a la déception, évidemment, il y a une déception. Aragon manifeste sa déception dans un éditorial, je crois, de ce soir, de voir Renoir partir, de voir Renoir les quitter.
Aragon l'aurait appelé le traître quand il rejoint l'Italie de Mussolini. Je pense qu'il faut éloigner un peu la focale, malgré tout, et de ne réduire son engagement qu'à l'opportunisme. Il était sincère en 34, en 35, 36, et c'est sous le Front populaire qui, pour moi, qu'il a réalisé ses meilleurs films. Donc il était en équation entre lui, son cinéma et ce qu'il pensait. Après, effectivement, comme beaucoup, c'est disait Truffaut, un cinéaste est prêt à tout pour trouver du public, pour faire un autre film. Non seulement il accepte une invitation de Mussolini, mais après il fait des propositions à Vichy, donc vraiment, bon.
Et quant à ces liens avec Tixier Venancourt, alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette période aussi, cette correspondance?
C'est la même chose, il veut obtenir l'autorisation de partir, parce qu'il faut une autorisation pour pas quitter la France à ce moment-là. Ben, il s'adresse aux gens qui sont en situation de lui accorder cette autorisation. Et donc, il dit ce qu'il pense que ces gens ont envie d'entendre. Donc, il y a la lettre à Tixier, mais il y a beaucoup plus grave, c'est la lettre à Greven, quand même. C'est le représentant des Allemands en France pour le cinéma. C'est pour le cas où il ne pourrait pas partir, continuer de tourner en France. Si par malheur, il ne partait pas. Donc, il joue sur les deux tableaux. J'ai retrouvé une lettre de Renoir à Greven où il lui fait ses propositions de service. Donc il n'y a aucun problème pour lui, en disant que dans l'organisation qu'il prévoit, il n'y aura aucun indésirable. Qui sont les indésirables à l'automne 40? Mais Renoir n'est pas antisémite, il n'est ni philosémite ni antisémite. De même qu'il n'est ni communiste, ni croix de feu. Il ne faut pas chercher à... Ce que j'aime dans Renoir, c'est qu'on ne peut pas le rentrer dans un modèle, dans un moule. Il résiste à tout. C'est un caméléon sur une couverture écossaise. Il n'y a pas de conviction profonde. Il n'y a pas de conviction politique, c'est certain. Ça me paraît absolument certain. Alors, on peut considérer ça comme un défaut. Pas avoir de conviction, c'est un défaut humain, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une qualité de cinéaste. C'est-à-dire que Renoir est un cinéaste qui est avec tous ses personnages, aux côtés de tous ses personnages, qui les comprend tous. Y compris dans la règle du jeu, par exemple, le personnage du garde-chasse Cocu, vous pouvez le trouver ridicule, et il y a un moment dans le film où vous pleurez avec lui. Et ça, c'est la grande force de Renoir. Et c'est le drame de la règle du jeu. C'est-à-dire que le monde en est un point de son histoire où il faut choisir son camp. Et c'est ce que Renoir ne peut pas faire. Il ne peut pas choisir. Parce qu'il veut être d'accord avec tout le monde. Il croit à cette espèce d'unité totale. Il veut y croire, et c'est aussi pour ça qu'il va partir en 1939. Il ne comprend plus, enfin, il comprend ce monde, mais il ne veut pas prendre parti.
Dis donc, vieux, j'ai envie de foutre le camp. J'ai envie de disparaître dans un trou.
Ça t'avancerait à quoi?
Bah, ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que, tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons.
Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. Je suis contre les barrières, c'est contre les murs. Attends, je vais m'habiller.
Tu déjeunes?
Oui, je déjeune.
Après la victoire, fin du deuxième épisode. Avec Bernard Eisenschitz, historien et critique de cinéma. Maxime Grimbert, directeur de la Cinémathèque Ciné Archives. Tanguy Perron, historien du mouvement ouvrier et du cinéma. Et Pascal Mérigeau, biographe de Jean Renoir. Archivina, Véronique Jolivet. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Vincent Deck.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question d'un condamné à mort, béatifié. Mais c'est une autre histoire.